Europe 1, 13h, 14h, les carnets du monde. François Claus.
Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans les carnets du monde. Nous partirons dans une demi-heure pour un voyage terrifiant en Asie centrale, au pays des Ouïghours, ce peuple musulman de plus de 10 millions d'habitants qui vit dans le nord-ouest de la Chine. Ils ont le tort, les Ouïghours, d'être musulmans. Ils ont le tort de se trouver sur une route commerciale stratégique pour le pouvoir chinois qui a décidé de les éradiquer. Rares sont les témoignages qui viennent de cette province totalement verrouillée. Certains parlent d'un camp de concentration à ciel ouvert. Vous entendrez le témoignage de Goubar. L'actualité de ce dimanche, c'est aussi l'Égypte où le mouvement MeToo a libéré la parole des femmes agressées ou violées. La justice a d'abord semblé les entendre pour mieux les bâillonner et protéger l'establishment, souvent mis en cause dans ces affaires de violence. Nous serons avec la correspondante d'Europe 1, Ariane Lavrieux. Nous partirons enfin à Bombay, où la jeunesse thaïlandaise défie le pouvoir militaire et s'attaque, crime de lèse-majesté, à un vrai tabou, la couronne. Voilà pour le sommaire. Il est grand temps d'ouvrir les carnets du monde de ce dimanche 25 octobre.
Europe 1, les carnets du monde. François Claus.
Mais avant de partir pour ce grand voyage, les carnets vous proposent de rester quelques minutes en Europe. Comprendre pourquoi cette école de la République si meurtrie, célébrée dans la douleur à la Sorbonne, est bel et bien l'un des piliers de notre identité au pays de la séparation de l'Église et de l'État, dogmatisé depuis 1905. Comment nos voisins, qui n'ont pas la même histoire coloniale, mais qui ont géré plusieurs vagues d'immigration, vivent, assument ce communautarisme qui ne rimerait pas avec séparatisme, à commencer par la gestion si sensible du système éducatif. Direction tout de suite Berlin. Bonjour Hélène Kohl.
Bonjour.
L'Allemagne, où la religion est entrée à l'école.
Oui, la République fédérale allemande n'est pas laïque. La Constitution se contente de dire que l'État doit être neutre. Pour les Allemands, c'est important d'être religieux et vivre sa croyance fait partie de la sphère publique, même si on ne prie pas tous le même Dieu. Alors pendant longtemps à l'école, il s'agissait juste de trouver une forme d'équilibre entre la religion catholique et la religion protestante. Et puis au cours des décennies, il a fallu prendre en compte la présence d'élèves et d'enseignants d'autres confessions, des juifs et essentiellement des musulmans aujourd'hui. Dès l'école primaire, on travaille donc sur la cohabitation des confessions avec visites d'églises, de synagogues et de mosquées.
Alors on sait qu'il y a des disparités entre les Länder, Hélène, mais globalement, ce principe de neutralité, comment est-ce qu'il s'applique ?
Alors en gros, on considère que si on prévoit des adaptations de calendrier ou de programmes scolaires pour certains croyants, alors il faut proposer des adaptations équivalentes pour les autres. Un exemple, si on donne des chocolats le jour de la Saint-Nicolas, on distribue aussi des bonbons pour l'Aïd. Un exemple très frappant aussi, c'est le droit à un jour férié pour les fêtes religieuses. Ici, à Berlin, on excuse les absences des enfants juifs le jour de Kippour ou celles des enfants musulmans le jour de l'Aïd, car les chrétiens, eux, systématiquement, n'ont jamais classe pour Noël ou pour Pâques. Alors, autre très grande différence avec la France, c'est la question des signes religieux. Il n'y a aucune interdiction ici et ça saute aux yeux à la sortie des collèges et des lycées. Il y a des élèves voilés et les parents aussi peuvent rentrer dans les établissements, quel que soit leur accoutrement, participer à la vie scolaire avec des kippas ou des voiles, accompagner des sorties, tenir un stand pendant la kermesse, proposer des plats traditionnels comme les fameuses saucisses chouchouk turques lors des kermesses. Et ça, je peux vous dire que c'est un incontournable des fêtes d'école ici à Berlin.
Oui, on est très loin là, de la situation française, effectivement. Alors, il y a quand même des tensions, Hélène.
Oui, notamment parce que l'islam a longtemps été ici presque exclusivement une affaire turque. Et la grande majorité des mosquées sont toujours gérées par une association qui dépend directement d'Ankara et qui s'occupe aussi de recruter les enseignants qui vont à l'école pour donner les cours d'instruction à l'islam. Parce qu'il y a effectivement des cours de religion juive et chrétienne proposés par les Länder. Et donc maintenant, on essaye d'établir un équilibre, sauf qu'il n'y a pas encore assez de professeurs formés en Allemagne. Et donc, il faut faire confiance à cette association turque. Et ça fait rentrer des tensions communautaires et même des tensions politiques dans les établissements scolaires. Et puis, autre problème régulier dès l'école primaire, c'est aussi la question des cours de sport, des cours de natation notamment, qui sont obligatoires pour tous les enfants en CE2 ici en Allemagne. Beaucoup de familles sont réticentes et les enfants sont portés pâle. Pour l'instant, je dois dire que l'école allemande ne fait pas grand-chose pour lutter contre ce phénomène.
Oui, mais c'est loin des attentats type Charlie ou Samuel Paty en France. Tout n'est pas parfait, mais on a compris qu'il y avait une forme de vivre ensemble qui se développait dès l'école. Merci beaucoup Hélène Kohl, immédiatement direction Bruxelles. Bonjour Isabelle Horry.
Bonjour François.
Bruxelles, le royaume catholique de Belgique, la religion, Isabelle, a sa place à l'école, c'est finalement l'anti-loi 1905 du pays depuis la création de la Belgique au 19e siècle.
Et oui, alors précisément depuis la loi sur l'instruction primaire de 1842, c'est elle qui a instauré les cours de religion à l'école. Contrairement à la France, ici, il n'y a jamais eu de séparation entre l'Église et l'État. Aujourd'hui encore, l'État belge est neutre, ce qui signifie qu'il reconnaît tous les cultes et qu'il les finance en partie. Alors voilà comment ça se manifeste à l'école publique. Dès le CP et jusqu'à la terminale, les enfants choisissent une religion ou un cours non confessionnel de philosophie et citoyenneté. Ils ont une heure par semaine. Alors c'est possible de demander une dispense, mais seuls 10% des familles font ce choix. Et à l'école catholique qui scolarise plus de la moitié des Belges francophones et qui est gratuite ici, il y a 2 heures par semaine de cours de religion.
Alors Isabelle, vous êtes journaliste, mais vous êtes aussi parent d'élèves et vos enfants d'ailleurs ont pratiqué les deux écoles. Et quel est le contenu de ces cours, ce qu'on appelle chez nous le catéchisme finalement ?
Alors, c'est plus compliqué que le catéchisme, François. Alors, au nom de la neutralité, l'école publique ne contrôle pas le contenu de l'heure de religion. Elle est donnée par des professeurs qui sont nommés par les cultes et qui sont eux-mêmes responsables des inspections. Mais ça, c'est de plus en plus contesté. Et d'ailleurs, il y a une évolution qui se dessine. Depuis 2015, on a divisé par 2 l'horaire des cours de religion dans l'enseignement public. Avant, c'était 2 heures. Désormais, donc, c'est 1 heure. La deuxième est devenue un cours de philosophie qui est commun à tous. Et là, les enfants apprennent à connaître les autres religions. Ils discutent éthique, morale, philosophie, un programme qui a aussi été imposé aux écoles catholiques. Et donc, par exemple, effectivement, ma fille, qui a choisi un lycée catholique, a récemment appris la différence entre le sunnisme et le chiisme. Elle maîtrise aussi les principes du shintoïsme et de l'animisme. Elle a même eu une interro sur tout ça. Vous voyez, on est quand même assez loin du caté.
Question évidemment directe par rapport à la situation française. Est-ce que cette meilleure connaissance des religions, cette présence de la religion à l'école, est-ce qu'elle favorise ce qu'on appellerait le mieux vivre ensemble ?
Alors, il n'y a pas encore d'études approfondies sur ce sujet, m'a indiqué un universitaire spécialisé. Ce qu'on peut constater, c'est que d'un côté, les enfants acquièrent une meilleure connaissance des religions, avec l'accent qui est mis sur la tolérance, mais de l'autre côté, le fait de choisir un cours de religion dans l'enseignement public, ça revient en fait à se faire coller une étiquette sur le dos dès 6 ans, parce que les enfants sont identifiés et séparés en fonction de la religion de leurs parents. Et ça, eh ben, ça correspond assez bien la société belge dans son ensemble. Les communautés y sont plus visibles et plus reconnues ici. On est vraiment loin du modèle d'intégration à la française. Alors, même s'il y a des problèmes aussi en Belgique, la situation semble moins tendue, ou en tout cas, on en parle moins. Peut-être aussi parce qu'il y a moins de zones de non-droit visibles. En Belgique, il n'y a pas de banlieue. Les quartiers populaires sont dans les villes.
Ah oui, et ça renvoie d'ailleurs, ce dernier élément renvoie au propos du recteur de la mosquée de Paris après le discours d'Emmanuel Macron, qui disait que le séparatisme réussi ne passera qu'à travers un travail sur la ghettoisation de nos quartiers. Merci beaucoup Isabelle Léory, correspondante d'Europe 1 à Bruxelles.
À bientôt.
Elle vient de nous rejoindre dans ce studio. Bonjour Johanna Chabas.
Bonjour François.
Vous avez été notre correspondante en Angleterre, votre maman est née en Angleterre, vous avez une tante qui enseigne là-bas. On est tous frappés quand on va en Angleterre. Ça a été mon cas l'une des premières fois que j'ai pris l'Eurostar, où j'ai été accueilli par un douanier avec sa coiffe sikh. La laïcité ne se traduit quasiment pas en anglais.
Mais oui, il faut rappeler que le Royaume-Uni n'est pas un pays laïque. En Angleterre, il y a une religion d'État, l'anglicanisme. La reine est à la tête de cette religion. Elle est l'équivalent pour l'anglicanisme du pape pour les catholiques. À la Chambre des Lords aussi, le Sénat britannique, à peu près 26 sièges sont réservés à des archevêques et évêques.
Impensable en France où la soutane fut interdite depuis 1905. Et on remarque dès qu'on arrive à Londres que ça se vit très bien finalement dans la rue et au quotidien.
Mais oui, c'est ce qui frappe tout de suite en fait dans l'espace public, mais aussi au travail, tout signe religieux est autorisé. C'est pour ça qu'on peut voir, vous le disiez, des policiers en turban sikh, en kippa, des femmes voilées. Dans de nombreuses entreprises aussi, on peut trouver des salles de prière multiconfessionnelles. L'idée est de ne pas faire un tabou de la religion, de n'exclure personne et de banaliser ses représentations.
C'est ce qu'on appelle le pragmatisme à l'anglaise et ça commence dès l'école, ça faisait partie du quotidien de votre maman enseignante.
Oui, elle se souvient avoir à l'école un camarade avec un turban sikh, parce que là aussi, les symboles sont autorisés. Ma tante, qui enseigne, vous le disiez, d'ailleurs, ne comprend pas pourquoi c'est un tel débat en France. D'ailleurs, l'éducation religieuse est au programme en Angleterre et en Écosse. Les écoles publiques ont l'obligation de proposer des cours. Alors, les parents peuvent demander à ce que les enfants ne suivent pas cette éducation. Le principe est d'étudier un éventail très large de religions, le christianisme, le judaïsme, l'islam, mais aussi l'hindouisme, le bouddhisme. C'est au choix, mais c'est aussi étudier des concepts plus philosophiques comme l'humanisme ou des points de vue athées. Et puis il y a évidemment les uniformes dans les écoles britanniques.
Et qui permettent de lisser ces différences aussi. Alors ça c'est le modèle. Est-ce qu'il a été remis en cause, Johanna ?
Alors il y a évidemment des tensions, notamment après les attentats terroristes qui se sont multipliés, mais le débat se porte plus sur les failles du système de surveillance, moins sur le multiculturalisme qui fait en fait partie de la culture britannique. Un exemple assez récent montre comment c'est toujours le cas. Dans l'équipe de Liverpool, la star c'est Mohamed Salah, un Égyptien de confession musulmane. Et il y a 2 ans, les supporters en ont fait un chant avec ces paroles: « Si ton Dieu est assez bon pour toi, il est assez bon pour moi. S'il en marque quelques autres, alors je serai musulman aussi. » Alors c'est un chant de supporters, ça vaut ce que ça vaut, mais ça montre comment la religion n'est pas taboue et est reconnue en théorie par tous.
Oui, ça en dit long parce que les tribunes en Angleterre, dans cette religion qui est le football là-bas, sont effectivement un très bon reflet du pays, et ça permettra peut-être pour tous les Anglais, comme disent les supporters de Liverpool, de jamais marcher seul. You'll never walk alone. Merci Johanna Chabas.
Merci beaucoup.
Direction tout de suite, justement, le pays de Mohamed Salah.
Europe 1, les carnets du monde. François Claus.
Et tout de suite donc, direction l'Égypte, où nous retrouvons la correspondante d'Europe 1. Bonjour Ariane Avrieux.
Bonjour.
L'Égypte, où la société est secouée par une vague de dénonciations de violences sexuelles, 3 ans après le déclenchement de ce qu'on appelait à l'époque le mouvement MeToo. Les Égyptiennes ont pris d'assaut les réseaux sociaux cet été avec une ampleur totalement inédite dans ce pays. Une ampleur qui a obligé la justice à ouvrir des enquêtes contre des hommes souvent riches ou puissants. Sauf que la justice ne s'est pas arrêtée là en Égypte. Elle s'est aussi retournée contre les victimes et les activistes qui les soutiennent au point de les envoyer en prison. Ariane Lavrieux, racontez-nous d'abord cet élan qui a embrasé l'Égypte et les réseaux sociaux cet été. Qu'est-ce qui a poussé les Égyptiennes à briser le silence ?
Bien, c'est parti d'un message sur Facebook. Au début de l'été, une étudiante de la prestigieuse université américaine du Caire met en garde publiquement contre un harceleur qui vient régulièrement sur le campus. Elle donne son nom et très vite, des dizaines d'autres étudiantes confirment et accusent à leur tour ce jeune issu de la bourgeoisie d'agression, de chantage et même de viol. Les autorités prennent au sérieux l'affaire, qui débouche sur un procès qui a commencé il y a quelques jours. Donc c'est à la fois un élan de courage chez les victimes et la réaction des autorités qui ont permis de briser le silence. Et dans la foulée, il y a des dizaines d'affaires qui ont explosé au grand jour dans tout le pays, avec des enquêtes contre des médecins, des professeurs, des journalistes connus. Sur Internet, dans les associations féministes, on assiste à un tsunami de témoignages.
Et parmi ces témoignages, il y a une affaire qui a particulièrement choqué l'opinion, un groupe d'hommes très influent, est accusé de viol sur une jeune fille de 17 ans.
Oui, parce que non seulement ces jeunes hommes d'affaires proches du pouvoir sont soupçonnés d'avoir drogué, violé cette jeune fille en 2014 dans un hôtel de luxe, mais en plus, ils auraient filmé leur crime, fait circuler cette vidéo et menacé la victime pour qu'elle se taise. Au départ, la réaction des autorités a été très ferme. Interpol est même sollicité pour arrêter 3 suspects qui avaient fui au Liban.
Sauf que la justice égyptienne va retourner à Ariane les témoignages des victimes pour mieux finalement quelque part protéger les agresseurs, les dédouaner et rejeter la faute sur d'autres.
Oui, c'est ça, l'enquête a pris un virage à 180 degrés après avoir arrêté les principaux suspects. Le procureur cible des témoins clés, des proches des victimes. Fin août, 3 hommes et 3 femmes sont kidnappés à leur domicile par les forces de sécurité. Et là, la terreur s'installe dans leur entourage. Leurs avocats refusent de s'exprimer dans les médias. Mais j'ai pu contacter une de leurs amies par messagerie cryptée. Pour sa sécurité, on a dû un peu modifier sa voix.
Alors, on l'a même totalement masqué, tellement la pression est forte aujourd'hui en Égypte, mais le témoignage est fort.
Ils ont été arrêtés par surprise au milieu de la nuit. À 4 heures du matin, la police a débarqué, défoncé leurs portes et leur a dit « On veut juste vous protéger parce qu'on pense que vous êtes en danger et donc on veut vous amener au poste pour écouter votre témoignage. » Sauf que la police a immédiatement pris leur téléphone pour trouver des photos intimes et les utiliser comme outil de chantage. Ce n'est pas juste un combat féministe, c'est une affaire politique, parce que là, vous visez des hommes d'affaires très puissants et dans des secteurs très variés, l'immobilier, le football, les pharmacies. En vous attaquant à ces gens, vous vous attaquez à la corruption au plus profond de l'État.
Ariane, qu'est-ce que la justice égyptienne reproche à ces témoins qui ne sont finalement accusés de rien par les victimes ?
Alors la justice leur reprocherait, parce que c'est pas encore officiel, mais d'avoir porté atteinte à la morale, d'inciter à la débauche. En fait, c'est leur style de vie qui est jugé, ou même leur orientation homosexuelle. La police a fait subir des examens anaux aux hommes, et leurs photos privées, intimes, ont fuité dans la presse, totalement contrôlées par les autorités. Or, ces clichés ne montrent aucun délit, mais ils servent toute une campagne de diffamation odieuse pour les discréditer, monter la société égyptienne conservatrice aussi contre les victimes. Et c'est pas un cas isolé, hein. Une star de l'application TikTok a passé 100 jours en prison cet été, accusée d'activités immorales sur Internet après qu'elle a dénoncé sur les réseaux le viol qu'elle venait de subir.
Alors on comprend bien ce virage, comment on est parti de témoignages au départ de victimes et comment la justice égyptienne est obligée de les prendre en compte tenu de l'impact sur l'opinion et comment finalement ça se retourne aussi contre les victimes aujourd'hui. Comment vous expliquez ce paradoxe, Ariane ?
En fait, c'est par la posture moralisatrice, patriarcale, que le procureur ici veut incarner. C'est ce que me dit la chercheuse spécialiste du genre, Lobna Darwish, qui travaille pour l'ONG Initiative Égyptienne pour les droits personnels.
Les autorités ont été obligées d'ouvrir des enquêtes, mais elles se sont rendues compte que de plus en plus d'affaires de viol allaient émerger et des affaires difficiles à gérer pour elles. Je pense que le procureur a un problème à considérer une victime comme telle s'il désapprouve sa vie personnelle. Donc tu peux être une victime ou un témoin, ils peuvent te transformer d'un coup en coupable. Tu peux être aussi accusé de donner une mauvaise image de l'Égypte juste si tu aides une victime. C'est un signe que le gouvernement ne va même pas laisser les gens s'exprimer.
Oui, on voit comment le pouvoir essaye de retourner ce mouvement. Et est-ce que cette réaction violente du procureur, et on peut dire globalement de l'establishment égyptien au pouvoir, a stoppé l'élan du MeToo égyptien, Ariane ?
Stopper, non, mais freiner, oui. Les témoignages se sont taris en ligne. Les gens ont peur de parler, des avocates féministes, hein, des conseils, parfois même de porter plainte parce que c'est devenu trop risqué pour la victime, son entourage. Pour autant, j'ai rencontré l'étudiante qui a déclenché au début de l'été ce mouvement de dénonciation des violences sexuelles. Pour cette jeune femme de 22 ans, eh bien, le combat doit continuer.
We are all fed up. On en a toutes ras-le-bol. J'ai 22 ans et j'ai passé toute ma vie en Égypte à être harcelée, suivie. C'est devenu la norme. Donc, malgré les obstacles qui se dressent contre nous, on a toutes décidé de dire « ça suffit ». Ça a créé un réseau de solidarité. J'ai rencontré beaucoup de nouvelles amies grâce à ce mouvement, des femmes qui ont survécu à tout ça. Les gens commencent à en prendre conscience. Des garçons disent qu'ils réfléchissent désormais à deux fois avant d'aborder une fille. On n'a pas encore obtenu le changement que l'on veut, mais c'est un début, le début d'un énorme combat. Un combat non pas entre les genres, mais contre une mentalité.
On entend une très forte détermination. Et puis, par rapport à ce que votre reportage révèle, Ariane, aussi un grand courage. Est-ce que ce témoignage est le reflet de, allez, j'allais dire, de celui d'une génération en Égypte?
Oui, en tout cas, elle est très loin d'être seule. Une autre étudiante a lancé un compte sur les réseaux sociaux pour recueillir les témoignages des victimes, les mettre en contact avec des psychologues, des avocates. Et malgré les menaces, elle continue. Elle a plus de 200 000 abonnés en quelques mois. Dans les universités, c'est devenu un sujet de discussion presque quotidien. Beaucoup d'Égyptiennes me l'ont répété, il n'est plus question de se taire.
Merci beaucoup, Ariane Navrieux, pour cette enquête et ce reportage pas évident à réaliser au Caire aujourd'hui et par cette prise de parole difficile, mais qui, si on entend les témoignages, ne se démentira pas dans les prochains mois. Merci encore Ariane, à bientôt dans les carnets du monde.
Merci, à bientôt.
Dans un instant, nous resterons emportés par cette vague MeToo qui gagne également, et on va le voir avec Eva Rock, le monde des séries.
Europe 1, les carnets du monde. François Claus.
Et nous n'allons pas quitter ce monde de MeToo, puisque chaque semaine, nous voyons comment la littérature, la musique ou les séries nous racontent le monde. Et ce monde dans les séries a été profondément marqué par les violences faites aux femmes. Ce thème des violences faites aux femmes irradie depuis quelque temps le monde de la création dans les séries. Bonjour Eva Rock.
Bonjour François, bonjour à tous.
Et parmi ces séries, il y en a une tout à fait remarquable. Ça s'appelle « I may destroy you ». Oui, je peux te détruire. C'est une série britannique produite par HBO.
Exactement, François. Et cette série, c'est une pépite. C'est l'œuvre de Michaela Cole. Alors, elle en est l'auteur, la co-réalisatrice et l'actrice principale. Mais ce n'est pas tout, parce que « I may destroy you » est aussi son histoire. Elle incarne Arabella, une jeune femme repérée par une maison d'édition qui vient de lui commander un roman. Elle a une nuit pour le finir. Et puis, au cours de la nuit, elle va s'offrir un verre dans un bar, puis deux, puis quelques autres. Un peu de cocaïne aussi.
On la retrouve dans un bar très bruyant où les gens dansent. Et puis on l'entend rapper, on l'entend rire, cette femme. Et on va la retrouver au petit matin. Elle est devant son ordinateur, elle a une plaie au front et son portable est brisé. Et au fur et à mesure de la journée, il y a des flashs qui vont lui prendre la tête. J'ai dit « lui prendre la tête » parce que c'est vraiment ça ce qui se passe, au sens propre du terme. Et Arabella se confie donc à sa meilleure amie.
J'avais un genre de truc dans ma tête avec un gars. Il est dans des toilettes, je crois, tu vois. Et il est... Je sais pas, il fait un truc vraiment chelou. Il est plutôt essoufflé et grave en sueur. Il a de super grosses narines et c'est comme s'il bloquait la porte. Et du coup, elle fait... Je sais pas, comme un boom régulier. Ouais, comme si, tu sais, comme s'il bloquait la porte, quoi.
Alors, les flashs d'Arabella, François, c'est le visage d'un homme, son violeur, qui l'a drogué avec du GHB avant de commettre son crime dans les toilettes d'un bar. Et va débuter alors pour Arabella un très très long processus.
Alors, au-delà du viol lui-même, la série, elle raconte dans un ton très très moderne, très contemporain, autre chose.
Oui, tout à fait. Et c'est une des grandes qualités de la série. I May Destroy You, c'est surtout l'histoire d'une reconstruction du long parcours qui attend cette femme. Elle a d'ailleurs un truc incroyable, Arabella. Elle cherche à tout relativiser pour éviter en fait de se poser comme victime. Écoutez bien cet extrait, c'est une lettre qu'elle vient d'écrire.
Est-ce que je comprends seulement ce que ça fait que d'être une femme qui lutte ? Une fellation forcée, c'est pas la mer à boire. Alors qu'aujourd'hui, des filles sont lapidées parce qu'elles ont un téléphone portable. Ou meurent d'hémorragie après avoir subi une excision. Ou encore se retrouvent avec un utérus endommagé à vie par des miliciens qui les violent systématiquement en période de conflit civil et de guerre. Cette réalité... Est-elle un rappel humiliant qu'il ne faut pas faire trop de vagues à propos de ce que j'ai vécu ? Ou bien est-ce un signal m'incitant à le crier ? Et mes cris peuvent-ils aider celles qui hurlent en silence ? Est-il temps que je serve une nouvelle tribu ? Un jour, j'espère le savoir.
Et chaque épisode, en fait, est l'occasion de s'interroger sur la notion de consentement des femmes, mais aussi des hommes. C'est aussi ça qui est extrêmement intéressant, parce que son meilleur ami, homosexuel, a également été victime d'un viol. Et tous les deux, il faut le préciser, tous les deux sont noirs. C'est important de le dire parce que la série, elle parle aussi de gens racisés.
Oui, on est dans le Londres très contemporain.
Exactement.
Le Londres nocturne très très bien filmé et c'est une réalisation forte.
Oui, et maîtrisée. Michaela Cole, elle se filme en se positionnant toujours du côté de son héroïne. Elle est dans sa tête et elle nous embarque avec elle. Et parce qu'elle est une fille absolument lumineuse, on se retrouve dans une série lumineuse malgré le sujet et malgré le drame qui se joue. Alors, je ne vais pas vous spoiler la série. Mais regardez vraiment le dernier épisode. J'ai rarement vu un final aussi puissant, aussi bien écrit. Je me répète, François, mais vraiment, pour moi, I May Destroy You est la série de l'année, si ce n'est plus. Il y a 12 épisodes de 23 minutes qui sont à voir sur OCS, mais également sur Amazon Prime Video, si vous êtes abonné.
Ce sont des épisodes assez punchy, 23 minutes.
Et puis, je me permets aussi de vous conseiller une série française. Ça s'appelle Laetitia. C'est réalisé par Jean-Xavier de Lestrade. Et alors là, on est plus axé sur les violences faites aux femmes. Et c'est une fiction absolument remarquable dans le cadre familial, en fait, depuis qu'on est enfant jusqu'à l'âge adulte. Voilà.
Et on mesure dans ces séries ce qu'est l'impact. C'est là-dessus que les réalisateurs insistent, d'une violence. Ce que ça fait sur un individu, sur sa vie, comment ça le détruit, pour reprendre le I May Destroy You. Merci beaucoup,
merci,
Eva.
Merci, François.
Et nous allons, Eva, tout de suite prendre la direction d'un pays très lointain, en Asie centrale, au nord-ouest de la Chine. Un pays totalement verrouillé et un témoignage absolument exceptionnel, la douleur des Ouïghours.
Europe 1, les carnets du monde. François Claus.
Ce sont des mots difficiles que vous allez peut-être entendre, des témoignages parfois à la limite du soutenable, mais des mots qu'il faut plus que jamais entendre. Ils émanent du peuple ouïghour, un peuple de 9, peut-être plus, millions d'habitants qui vit en Asie centrale, au nord-ouest de la Chine, au sud du Kazakhstan, dans une zone devenue stratégique. Les Ouïghours sont aujourd'hui quasiment massacrés par le pouvoir chinois. Peu de personnes ont témoigné de cette réalité, mais l'une d'entre elles, depuis 10 ans, s'y attelle et nous sommes heureux de l'accueillir dans les carnets du monde ce dimanche. Bonjour Sylvie Lasserre.
Bonjour François Claus.
Journaliste, ethnographe également, vous avez longuement arpenté cette zone inconnue de nombreux Français pour retranscrire cette réalité que peu de gens connaissent, celle d'une grosse minorité Ouïghours, des musulmans en Chine. Votre livre, il y a 10 ans, s'appelait « Voyage au pays des Ouïghours ». Vous avez décidé de le republier aujourd'hui aux éditions S, assorti d'un sous-titre « De la persécution invisible à l'enfer orwellien ». Qu'est-ce qui fait, Sylvie Lasserre, aujourd'hui, que le pouvoir chinois s'attaque à la minorité musulmane ouïghour ?
Ah ben, la situation a bien empiré depuis la première publication du livre. Ça s'est nettement empiré avec l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2013 et ensuite la nomination comme gouverneur du Xinjiang de Chen Kuangguo, qui a sévi au Tibet avant. Les Ouïghours ont toujours été opprimés, c'est pour ça que j'avais déjà écrit le premier livre. Ils occupent un sixième du territoire chinois, or ils ne sont que, si on peut dire, une quinzaine de millions, on ne sait pas exactement. Le sous-sol du Xinjiang regorge de pétrole, d'hydrocarbures, de minerais précieux. Et maintenant, avec les projets économiques des nouvelles routes de la soie, la région est vraiment devenue stratégique. Et les Ouïghours gênent, c'est tout.
Les Ouïghours gênent, la Chine s'est lancée dans une grosse opération de colonisation. Il y avait quelques centaines de milliers de Chinois de la dynastie Han qui étaient là dans les années 49. Ils sont aujourd'hui 9 à 10 millions, dit-on, comme s'il fallait écraser les Ouïghours. Vous employez un mot très fort dans votre livre, vous parlez aujourd'hui de ce territoire totalement verrouillé comme d'un camp de concentration à ciel ouvert.
Oui, ça c'est Rebia Kadir qui employait ce terme déjà il y a une quinzaine d'années. Depuis que le dernier livre est paru, le Turkestan oriental, parce que c'est ainsi que l'appellent les Ouïghours, est complètement cadenassé, verrouillé. On ne sait plus ce qui s'y passe. Les choses ne sont pas comparables, mais il y a 380 camps d'internement pour les Ouïghours.
Alors les Chinois disent que ce sont des camps patriotiques où on vous apprend la langue chinoise, à chanter chinois, à travailler. En fait, ce sont des camps d'internement où se pratique la torture, pour parler clairement.
Dans la plupart des camps, oui, pour la plupart des prisonniers, certainement. Il y en a d'autres dans lesquels les prisonniers travaillent. Mais aujourd'hui, on estime qu'un tiers des Ouïghours se trouve ou est passé dans des camps, c'est-à-dire 8 millions. On parlait récemment d'un million, mais c'est beaucoup plus que ça, puisque depuis 2014 jusqu'à 2020, c'est 1,23 million d'Ouïghours passés dans les camps, sous le prétexte du terrorisme qui est absolument fallacieux.
Oui, parce qu'ils sont musulmans et aujourd'hui la Chine veut se montrer comme un combattant de l'islamisme radical alors que rien dans l'histoire ouïghour ne parle d'une radicalisation de cette terre et de volonté terroriste.
Oui, exactement.
C'est de la propagande.
C'est de la propagande totale.
Alors la réalité de ces camps, il est très difficile d'en avoir des témoignages. Eh bien grâce à Marion Gauthier, notre reporter, nous en avons eu un sur Europe 1. Elle s'appelle Goulbahar. Elle a eu la chance pour elle de ne pas être citoyenne chinoise. Elle a été Ouïghour du Kazakhstan. Elle a été attirée dans une forme de piège à la frontière. Elle fait de l'import-export. Elle est allée chercher un colis. Elle a été immédiatement arrêtée par les autorités chinoises et enfermée dans un de ces camps qu'on évoquait à l'instant, où elle passera 1 an, 3 mois, 10 jours, en plus de souffrances, de tortures. Et elle raconte à Marion Gauthier ce qu'elle a vécu.
Quand ils m'ont emmené dans cette prison, ils m'ont d'abord donné un petit papier sur lequel il y avait un numéro. Ils m'ont expliqué que c'était mon numéro d'identité désormais, alors que je ne suis pas citoyenne chinoise. Ils m'ont dit que c'était mon identité et que je devais la prendre par cœur. Ils m'ont fait me déshabiller et m'ont donné un uniforme jaune. Je n'avais même plus de sous-vêtements. Ensuite, ils m'ont donné un tube en plastique pour un examen d'urine. J'ai compris après que c'était pour savoir si j'étais enceinte. Si vous êtes enceinte, ils vous font avorter de force avant de vous jeter dans la cellule. Comme je ne l'étais pas, ils m'ont amené directement à la cellule numéro 704. C'était la nuit. J'ai vu plein d'autres femmes attachées, comme moi, avec une lourde chaîne de 5 kilos au pied et une main enchaînée au pied. Je suis restée comme ça pendant ma détention. 1 an, 3 mois et 10 jours.
Goulbahar racontera également des choses horrible, avec encore des tremblements dans la voix à Marion Gauthier, le récit de cette femme qui venait de donner naissance à un enfant va lui arracher le bébé des bras. On la laissera croupir pendant quelques mois avant de l'interroger dans cette cellule. On la fera croupir parce qu'on attend une chose d'elle, qu'elle signe un aveu qu'elle est terroriste. Elle refuse.
Comme j'avais refusé de signer, il m'avait dit qu'il m'emmènerait dans un endroit où je serais bien obligée de le faire. Ils m'ont emmené dans une autre pièce où il n'y avait pas de caméra. J'étais attachée à une chaise. Mes pieds, mes mains, mon torse étaient attachés. Je ne pouvais pas bouger. Ensuite, le gardien a enlevé son pantalon. Il a mis son sexe devant ma bouche et il m'a dit « Maintenant, tu signes ». C'était un jeune homme. J'ai pleuré, j'ai dit « Mais comment oses-tu faire ça? Tu n'as pas une mère, une sœur ?» Il m'a frappé. Il m'a donné des coups sur la tête avec un bâton électrique en disant « Regarde à quoi tu ressembles. Tu n'es pas un être humain. Tu es une bête. Comment tu oses comparer ma mère et mes sœurs à toi? Regarde-toi, tu ressembles à une bête. »
Ces mots très difficiles à entendre, ils émanent d'une femme de 54 ans qui est ici en France. Elle a une procédure de droit d'asile. Elle a pu finalement être acquittée, comme disent les autorités chinoises, alors qu'elle n'avait aucune charge contre elle, parce qu'elle était citoyenne du Kazakhstan et non pas de Chine, et qu'elle a refusé de signer un aveu d'appartenance à la Chine et de terrorisme. Un témoignage comme celui de Gulbahar, il doit y en avoir aujourd'hui des dizaines, des centaines.
Pas tant que ça. Parce que
des
justement,
cas, en tout cas, à défaut de témoignages. Des témoignages, on n'en a pas beaucoup.
Ah oui, voilà,
mais des
les
cas.
Témoignages. Ah ben des cas, oui, bien sûr. Gulbahar, elle est... Enfin, j'ai recueilli également son témoignage à Istanbul l'hiver dernier. On lui doit vraiment beaucoup, parce que justement, des témoignages, il y en a très peu. Très peu de... Tous les Ouïghours qui sortent de camp, s'il y en a, on la consigne. De toute façon, ils ne quittent pas le territoire chinois. Et Gulbahar, si elle a pu sortir, c'est qu'elle était kazakhstanaise. Tout de suite, on l'a expédiée au Kazakhstan. Et vraiment, elle a beaucoup de courage, parce qu'elle a fait ça au risque de sa vie. En sortant du camp, quand on l'a libérée, on lui a dit « tu te tais ».
Alors on lui a donné des médicaments, on l'a reliftée pour effacer toutes les traces de torture, qu'elle ne puisse pas venir témoigner, tant les autorités chinoises redoutaient ce type de témoignage. Dans votre livre, ce voyage au pays des Ouïghours, on subodore une véritable, j'allais dire, épuration ethnique culturelle. C'est-à-dire que les Chinois ont obligé des Chinois à venir dans les familles ouïghours. On sépare les femmes, les enfants, on les prive d'identité. On ne veut plus qu'ils existent, tout simplement.
Oui, complètement. Et le problème, à l'époque, on parlait de génocide culturel, mais maintenant, ça va beaucoup plus loin. On voit comment les Ouïghours sont traités dans les camps. Il y a un Ouïghour qui vit aux États-Unis, qui reçoit beaucoup d'informations de l'intérieur, notamment également de dignitaires Han, du pouvoir central. Là, il est question d'un million d'Ouïghours qui ont purement et simplement été éliminés. Il y a des témoignages d'exécutions sommaires. Donc on en est là. Un million d'Ouïghours ont disparu.
C'est une réalité, mais absolument sidérante. Et c'est pour ça qu'il faut aujourd'hui témoigner et que ce travail doit être reporté, ce que nous faisons aujourd'hui. Il y a des Ouïghours réfugiés en Europe. Il y a une communauté en Allemagne. Ils sont, dit-on, 800 à peu près en France. Ils ont quitté l'Ouzbékistan ou le Kazakhstan pour venir en Europe occidentale. Sous, vous allez l'entendre, une grosse pression des autorités chinoises et avec le cœur serré quand ils pensent à leur famille là-bas, oubliée, avec qui ils n'ont plus de contact. Marion Gauthier est allée dans Paris à leur rencontre.
Lorsqu'ils se retrouvent dans ce café parisien, Alim et Adil se sourient. Mon frère, s'appelle-t-il, des frères de lutte, des manifestants assidus pour défendre leur peuple depuis Paris. Alim a quitté Urumqi en 2002. À l'époque, il manifeste dans son université contre l'obligation de parler chinois dans tous les cours. Recherché par la police, il fuit au Kazakhstan, en Russie, en Belgique, puis en France, toujours plus loin de Pékin, sans jamais avoir de nouvelles de ses anciens camarades.
Depuis 2016, donc, y a vraiment eu un grand contrôle par le gouvernement, tous les appels, toutes les plateformes d'application. Si j'appelle directement chez moi avec une ligne européenne, ça va mettre en danger mes parents. Donc j'ai pas osé de l'appeler depuis plus de 3 ans, 4 ans. Même là, je ne sais pas ce qu'ils sont en vie ou pas.
Adil écoute, la tête baissée, des tics nerveux déforment régulièrement son visage. Lui est parti d'Urumqi en France pour faire ses études. C'était en 2011, il n'a jamais pu rentrer chez lui.
Ma vie, elle reste là-bas. Même j'habite en France et ma cœur, il reste toujours la Turquie orientale. J'ai de la chance parce que je suis en France. Maintenant, je suis dehors. Mais quand même, ma cœur, il est toujours dans le camp. Quand mes proches, parce que je pense toujours par rapport à eux, tous les jours, tous les secondes, toutes les minutes.
Les deux hommes donneraient tout pour seulement respirer l'air de leur Turkestan oriental. Impossible pour eux de parler de région ou de province chinoise. Leur patrie a été colonisée, disent-ils, et leur envahisseur les poursuit à des milliers de kilomètres. De mystérieux colis les attendent dans les consulats et les appels anonymes se multiplient.
J'ai reçu 3 appels, et numéro italien. Au téléphone, c'est un mec chinois qui me parle en chinois. c'est pour me signaler qu'ils connaissent toutes mes histoires, même ici en France. Si j'arrête pas des activités ici, donc mes parents, ils seraient dans des gros problèmes. Le moment, je suis dans le vide, donc je sais pas quoi répondre.
Alors Alim met dans la balance ses proches et tout son peuple.
J'ai suivi le combat pour toute la communauté. Donc voilà, c'est nous de réagir en premier, c'est nous de se lever en premier. Si on n'a même pas de courage, on a une obligation de le faire en fait.
Je vais bien dire à tous mes proches qui restent là-bas, on est là, on est en France, on est dans l'étranger, on parle par rapport à eux, on parle par rapport au camp de concentration, on parle par rapport aux Ouïghours, on n'arrête pas.
Puisque tout ce qu'ils peuvent faire, c'est témoigner. Ce soir-là, ils donnent une conférence dans une université parisienne pour expliquer la situation des Ouïghours en Chine.
Cette pression, Sylvie Lasserre, des autorités chinoises, avec, on a parlé même d'un... Ils prennent des traces ADN pour pouvoir tracer les Ouïghours dans le monde entier. C'est une réalité aussi.
Les traces ADN, c'est en Chine. Il existe une base de données gigantesque dans laquelle sont entrées toutes les données relatives à chaque individu Ouïghour. Donc son ADN, son visage pour la reconnaissance faciale, ses faits et gestes. Par exemple, un Ouïghour qui a été une fois prié à la mosquée, par exemple, pour la fête de l'Eid. C'est-à-dire, c'est comme si nous, chrétiens, nous allions à la messe de minuit une fois. Ça suffit...
Pour être catalogué, si
voilà.
Je puis dire.
Et donc, parce qu'un logiciel, ensuite, mouline tout ça, et il en résulte, un tel doit aller en camp, un tel est un bon citoyen. Ils sont pris dans un énorme filet... aux mailles millimétriques. Ils ne peuvent plus bouger. Ils sont comme dans une chaise du tigre mentale. La chaise du tigre, c'est ce que décrivait justement Gulbahar. On vous attache sur une chaise en fer, les bras sur les accoudoirs fixés, les jambes fixées, le torse fixé. Vous ne bougez plus. Vous ne pouvez plus bouger pendant 24 heures. Donc mentalement, ils subissent aussi la même chose.
C'est des faits extrêmement graves, caractérisés, qu'on peut lire dans votre livre « Voyage au pays des Ouïghours » aux éditions S, je le rappelle. J'ai envie de dire, mais que fait la communauté internationale? Alors, dans le contexte de guerre américano-chinoise, on a eu le Ouïghour Act aux États-Unis, on a vu le Parlement européen qui a voté la demande de sanctions contre la Chine, mais défendre les Ouïghours, c'est s'attaquer à un monstre intouchable.
Oui, complètement. Déjà, la Chine obtient des soutiens. Donc, plusieurs pays ont signé une lettre écrite.
Au nom de la lutte contre l'islamisme radical, hein, c'est ça?
Oui, oui. La Chine a préparé des lettres de soutien, toutes faites, et les pays qui dépendent de la Chine économiquement ont signé. Donc, beaucoup de pays pauvres, on peut citer le Pakistan, qui a beaucoup d'intérêts économiques avec la Chine. Donc, déjà, la Chine se targue d'avoir des soutiens et de dire, ben non, vous voyez, c'est toujours au nom du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme. Et puis, ben oui, la communauté internationale est très.
En retrait.
Très en retrait. De toute façon, il n'y a pas de preuves. C'est aussi un problème, ça. Parce que la Chine ment, la Chine dissimule. Donc, c'est difficile d'avoir des preuves. Alors,
le Financial Times révélait qu'il y aurait même en ce moment une grande opération du côté chinois d'éradiquer tout ce qui serait preuve d'actes de torture ou d'existence de camps qu'on pourrait quasi qualifier de concentration.
Oui, oui, tout à fait. Des fonctionnaires ont reçu des ordres de tout détruire sous peine de eux-mêmes aller en camp. Et enfin, on a commencé à avoir les premières preuves au mois de décembre l'année dernière avec les China Cables, donc 400 documents exfiltrés du PCC. Donc ça, c'est probablement un dignitaire Han Ouïghour, mais probablement Han, qui a pris ce risque, parce qu'ils font
parce
ça au risque de leur vie.
Parce que c'est trop horrible
là-bas, oui. Oui, oui. Alors bizarrement, à peine ce scandale est sorti, l'épidémie de coronavirus s'est déclarée. Bon, je ne veux pas faire d'allusion, mais c'est quand même étonnant. Donc, on a arrêté d'en parler. Et à nouveau, il y a eu des vidéos qui sont apparues sur le net de prisonniers ouïghours transférés dans des trains pour les amener sur des lieux de travail, etc. Donc ça a beaucoup choqué. On a commencé à parler de génocide. On a des preuves maintenant. C'est pour ça que l'opinion publique aujourd'hui est au courant. Les politiques commencent à récupérer, à s'emparer de cette affaire. Et on avance un peu quand même. On a vu Raphaël Glucksmann maintenant qui se bat contre
c'est
certaines...
C'est son combat.
C'est son combat.
Il a accueilli Gulbahar à Paris, qu'on a entendu dans ce reportage.
Lui, il agit, il prend des mesures concrètes. Donc, je pense que ça avance, mais plus on en parlera et plus on fera avancer les choses. Parce que c'est vraiment choquant ce qui se passe.
Et plus on arrêtera peut-être ce massacre. Et entre autres, il faut lire « Voyage au pays des Ouïghours », même si des passages sont un peu lourd à lire, mais c'est aussi un récit de voyage, de votre propre enquête, documentée avec des photos. C'est aux éditions S. Et merci, Sylvie Lasserre, d'être venue témoigner sur Europe 1 ce dimanche.
Merci, François.
Dans un instant, direction Bangkok, où la contestation ne faiblit pas.
Europe 1, les carnets du monde. François Claus.
Nous étions dimanche dernier à Bangkok pour évoquer la fermeture du pays face à la pandémie, mais aussi pour voir comment le pays utilisait le risque sanitaire pour tenter d'interdire les rassemblements. Bangkok, pourtant, où la révolte des jeunes se poursuit et prend une dimension de plus en plus importante jour après jour. Direction Bangkok, où nous retrouvons la correspondante d'Europe 1, Carole Izou. Bonjour Carole.
Bonjour François.
Ce mouvement qui a débuté il y a maintenant quelques semaines continue à être très vivace et il évolue même, Carole.
Oui, alors à l'origine, c'est un mouvement qui est né du mécontentement dans les milieux étudiants après la dissolution par la justice d'un parti qui représentait justement la jeunesse. Une jeunesse qui s'est donc retrouvée privée de représentation politique et qui a décidé de descendre dans la rue. Alors au début, les manifestants concentraient leur colère sur la personne du Premier ministre. Vous les entendez là qui crie « Prayut dehors ». Prayut, c'est le nom du Premier ministre. Et puis, il y a eu un basculement il y a quelques semaines quand une jeune fille qui s'appelle Rung, ça signifie arc-en-ciel, est montée à la tribune et a osé demander pour la première fois une réforme de la monarchie.
Oui, ça c'est un véritable tabou. On peut imaginer qu'elle a pris un gros risque, cette jeune femme.
Oui, d'énormes risques parce que la loi de lèse-majesté dont les manifestants demandent l'abrogation prévoit jusqu'à 15 ans de prison pour toute critique de la famille royale. Rung, d'ailleurs, aujourd'hui, est en prison. Ça, c'est la grande nouveauté du mouvement qui exige à présent haut et fort une ouverture sur les questions monarchiques, à la fois liberté d'expression, mais aussi contrôle démocratique des finances du palais. Écoutez par exemple Tien, il a 16 ans, il ment à ses parents tous les soirs en disant qu'il va réviser chez des copains pour venir manifester.
Notre gouvernement n'écoute pas le peuple. Ça n'est plus acceptable d'être méprisé ainsi. Le roi, c'est pareil. Il mène la grande vie en Allemagne en utilisant les ressources de notre pays, nos impôts, alors qu'ici, l'économie s'écroule. On ne veut vraiment plus accepter ça.
Alors là, on sent vraiment qu'on est à un tournant dans la société thaïlandaise parce qu'il aurait été impensable, il y a encore quelques mois, de parler en ces termes, en public, à un journaliste étranger, du roi.
Est-ce que vous diriez, Carole, que ce mouvement, il est représentatif de la société thaï ?
La société thaï, elle est très divisée sur cette question. Dans le passé récent, on a même assisté à des affrontements entre ceux qu'on appelait les rouges, partisans de réforme, et les jaunes, les ultra-royalistes. Aujourd'hui, ce qui change la donne, c'est qu'il ne s'agit pas d'un conflit entre catégories sociales, mais vraiment entre générations. La jeunesse thaï est massivement derrière le mouvement étudiant. Ça, c'est très gênant pour le pouvoir en place, qui admet que ceux qui sont dans la rue aujourd'hui représentent l'avenir du pays. Beaucoup considèrent tout de même que le respect de l'institution monarchique est au cœur de l'identité thaï, sous peine de la voir se dissoudre dans la mondialisation. Écoutez, Somchai, je l'ai rencontré au bord de la route à Bangkok. Il se tenait là dans l'espoir de voir passer le cortège royal à qui il était venu exprimer son soutien.
Les étudiants qui sont là, leur but, c'est de renverser la monarchie. Donc c'est le devoir de chaque Thaïlandais de s'opposer à eux. Parce que s'en prendre au roi, c'est inacceptable pour un vrai Thaï qui aime son pays.
On sent bien à travers ce témoignage, Carole, qu'il y a encore évidemment des divisions, notamment sur ce tabou de la monarchie. Est-ce qu'on entrevoit une sortie de crise à ce conflit ?
Non, pas du tout, et c'est là tout le problème. Les arrestations des leaders étudiants ont beau se multiplier, les manifestants s'organisent. Tout le monde est un leader, c'est l'un des mots d'ordre des rassemblements qui utilisent des techniques inspirées des mouvements hongkongais et notamment ce fameux « soyez comme de l'eau » qui consiste en des foules mouvantes pour disperser les effectifs de police. Pour Rang Siman Rom, un ancien député du Parti de la Jeunesse, les manifestants ne se démobiliseront pas tant qu'un espace de liberté d'expression politique ne leur sera pas accordé. Écoutez-le.
Il ne s'agit pas de savoir si ce groupe représente la majorité ou pas, mais d'avoir un espace de liberté pour discuter de la monarchie. Si beaucoup de jeunes demandent une réforme de la monarchie, pourquoi ne pourrait-on pas au moins en parler ? Le problème, c'est que certains groupes essaient de réduire les autres au silence. Il y a beaucoup de rumeurs qui circulent, mais on ne peut pas les vérifier car on n'a pas le droit d'en parler.
Il y a quelques jours, le gouvernement a semblé vouloir jouer la carte de l'apaisement en levant l'état d'urgence qui avait été décrété dans la capitale, qui permettait les arrestations arbitraires. Pour autant, aucune réelle concession n'a été proposée, ni de la part du gouvernement, ni du palais.
Merci beaucoup pour ces précisions, Carole Izou, et on suivra évidemment avec vous l'évolution de ce mouvement qui n'est pas sans rappeler d'autres mouvements de jeunesse dans le monde. On pense évidemment à l'Algérie, on pense au Liban ou au Chili. Merci beaucoup, Carole Izou, d'avoir été dans les Carnets du Monde ce dimanche. Dans un instant, les réflexions de notre philosophe sur le monde qui bouge, Joseph Chovanec.
Europe 1, les Carnets du Monde. François Claus.
Et comme tous les dimanches, nous refermons ces carnets du monde avec un homme qui est philosophe, autiste Asperger et infatigable voyageur. Bonjour Joseph Chovanec.
Bonjour François, bonjour à tout le monde.
Alors Joseph, alors que nos villes s'éteignent sous le double effet du confinement, aujourd'hui du couvre-feu, vous allez nous proposer aujourd'hui un voyage où on peut trouver de la lumière, fût-elle intérieure.
Mais oui, l'une des conséquences imprévues du Covid, c'est cette redécouverte des espaces souterrains, loin de la foule, des épidémies, des couvre-feux. Ce sont des lieux alternatifs où la vie redevient possible. La tendance semble s'être amorcée il y a quelques années déjà à Londres, avec le creusement de sous-sols toujours plus profonds, sous les immeubles de luxe notamment, que les riches propriétaires façonnaient en fonction de leur imaginaire cinématographique. Privé, piscine discrète, univers onirique, etc. Sous terre, tout redevient possible.
Alors cet univers parallèle, vous l'avez arpenté, Joseph, et pas seulement dans le Londres huppé.
Mais évidemment, sous les pieds des bipèdes s'étend un univers parallèle. Mon premier souvenir remonte à ce séjour que mes parents et moi avions fait au Luxembourg. Nous y allions souvent parce que mes parents, qui étaient réfugiés politiques, y avaient des amis qui avaient subi le même sort. Sous la ville du Luxembourg court un réseau de catacombes, les casemates, comme on dit localement. Descendre dans ces sous-sols humide, c'est se retrouver nez à nez avec des siècles d'histoire, en particulier avec l'histoire sinistre, parce que quel que soit le problème, guerre, épidémie, trouble, on allait se réfugier au sous-sol.
Et ça, vous l'avez vécu, vous, personnellement, cette semaine?
Oui, jeudi, j'ai visité le musée des égouts de Bruxelles. Quand vous arrivez à l'entrée près de la porte d'Anderlecht, impossible de ne pas être déçu par ce tout petit bâtiment construit au milieu de la chaussée. Vous vous dites, en 2 minutes, j'en aurais fini. Mais erreur, c'est tout un monde qui vous happe, car quand on est à la surface de la Terre, on ne devine pas la richesse, la complexité de ce qu'il y a juste en dessous. Par exemple, ces plaques rondes qui ferment les bouches d'égouts. Normalement, personne, sauf peut-être les enfants autistes, n'y prête attention. Toutefois, quand vous vous retrouvez du côté inférieur avec voitures et camions qui roulent à quelques mètres au-dessus de votre tête, vous sentez à quel point votre monde était triste avant que vous ne puissiez vivre cette expérience.
Alors Joseph, on a souvent l'impression que ce monde souterrain est quelque chose de totalement onirique, qu'il constitue peut-être un cadre idéal pour une fiction, pour notre imaginaire. Mais pour vous, Joseph, c'est autre chose.
Mais oui, ce monde-là des canaux, des galeries, des égouts, ce n'est pas un monde de science-fiction tout à fait autre. C'est plutôt un monde qui est étroitement mêlé comme une ombre au nôtre, à notre vie quotidienne, quand on se brosse les dents, quand on fait la cuisine. Dans les égouts, on revit notre quotidien sous un angle nouveau. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre l'un des textes de présentation des égouts de la ville de Bruxelles. Bruxelles est devenue une métropole justement avec leur construction. Non pas au sens de la commodité technique seule, mais parce que la ville ainsi a acquis cette seconde dimension. Et il y a quelques années, lors de mon dernier séjour au Yémen, j'avais d'ailleurs été l'un des derniers occidentaux au Yémen, j'ai pu entrer dans une grotte qui court très profondément sous le sol de l'île de Socotra. Contrairement aux casemates du Luxembourg, là il s'agit bien sûr de galeries naturelles. Mais une fois que j'étais très profondément sous terre, peut-être à 1 heure de marche depuis l'entrée de la grotte, je suis tombé sur des parois couvertes d'inscriptions dans des langues anciennes, dont le gaz ou vieil éthiopien. C'est un face-à-face avec l'éternité, d'autant plus poignant qu'il ne doit y avoir qu'une petite poignée de gens au courant de cet endroit du monde. Et si c'était justement sous terre, qu'en ces temps troublés, nous pouvions trouver notre chez-soi.
Magnifique réflexion qui me renvoie à celle de mon instituteur qui me disait « Mais regardez le ciel pour partir ailleurs. Vous nous dites, vous, Joseph, regardez aussi en dessous. Et on comprend mieux en vous entendant que les catacombes de Paris, avec cette foule immense à d'enfer Rochereau quotidienne, sont en passe de devenir tout simplement le lieu le plus visité de Paris. Ainsi s'achèvent ces carnets du monde. Remerciements appuyés à Marc Fréjean et à Marion Gauthier qui m'ont assisté à la préparation de cette émission. Et un petit coucou à notre première auditrice, Sophie Larmoyer, que vous retrouverez dès dimanche prochain.